Chapitre 10. La prophétie des trois rois. Deux jours après le birthday, le grand soleil avait laissé place à la pluie. Le château s'était réveillé sous une brume tenace qui noyait le gravier du parc et rendait les pavés des allées aussi glissants que lors d'un hiver verglacé. Des primats allaient et venaient pourtant, poussant de petites charrettes à bras sur lesquelles était empilé un bric-à-brac d'objets, des sacs, des outils, des outres de cuir, des draps, des couvertures, des vêtements. Dès qu'ils franchirent la première grille du château pour pénétrer dans la cour d'honneur, Vanille les accueillit, un bloc-notes à la main. Elle évalua avec précision leur chargement.
5 kilos de sucre, 10 de farine et 3 de sel, c'est parfait. 20 draps et 20 couvertures. Les oreillers, où sont les oreillers ?
Une seconde charrette, plus chargée encore, suivait la première. Elle s'immobilisa difficilement sur les pavés mouillés, manquant d'écraser les trois prémats qui la manœuvraient.
« Ah !»
fit Vanille, reprenant son inventaire depuis le début.
« Donc, 5 kilos de sucre !»
Jeanne d'Arc surgit dans le dos de la ministre. Il lui arracha son bloc-notes des mains et la prit par la taille.
« Accorde-toi enfin une pause. Tu as déjà tout recompté 10 fois. »
Vanille se tortilla pour essayer de récupérer son carnet.
« Rends-le-moi, tu me connais, j'ai besoin de tout vérifier. C'est l'expédition la plus lointaine jamais organisée. »«
Tout ira bien, » assura Jeanne d'Arc en levant le bloc-notes assez haut pour que la ministre ne puisse pas l'attraper. « Laisse tomber ton inventaire et souhaite-moi bon voyage. »
Vanille céda. Elle se hissa sur la pointe des pieds, pourtant déjà particulièrement haut perché dans ses escarpins, et enroula ses bras autour du soldat.
« Bon voyage, mon chevalier !»
Elle lui accorda un baiser, puis aussitôt se dégagea et s'adressa aux prémats les plus proches à grand renfort de gestes.
« Toi, toi et toi, chariot 3, toi et toi, chariot 5, non pas toi, lui !»
Oh !» se plaignit-elle en prenant Jeanne d'Arc à témoin.
« Il faudrait qu'on trouve un nom à chacun de ces prémats. C'est insupportable de tous les confondre sans arrêt. »
Jeanne d'Arc ne répondit pas. Il s'était tourné vers le centre de la cour d'honneur, subjugué. Depuis 4 ans, il avait participé à beaucoup de cérémonies, de tournois de l'étoile, d'expéditions, de défilés, mais il avait rarement assisté à un spectacle militaire aussi impressionnant. Au milieu de l'immense place pavée, 10 chariots bâchés étaient garés, alignés au centimètre près, chacun tiré par 2 chevaux. Une 20aine de cavaliers en grand uniforme rouge de parade, dressés sur leurs montures, se tenaient au garde-à-vous. Galons aux épaulettes, vestes à boutons dorés jusqu'au ras du cou et hautes casquettes brodées aux insignes du grand cerf. Aux 4 coins de la cour, des soldats stoïques portaient des drapeaux à cornes, alourdis par la pluie. Les civils, Jeanne d'Arc appelait ainsi les savants et les singes qui participaient à l'expédition, assis dans les chariots, étaient moins soucieux du protocole et envoyaient des baisers de la main aux rares courageux venus accompagner leur départ, compte tenu de l'heure matinale et de la météo capricieuse. Léonarda saluait avec de grands moulinets des bras Suzy et Estive. Moebia, la responsable scientifique de la mission, envoyait des baisers à Pastor, penché à une des fenêtres de l'aile des savants, sans se soucier de la bruine tenace qui trempait son pyjama. Seul Akan se tenait debout à côté de son cheval, Mistral, un pur sang couleur feu de la crinière jusqu'à la queue, à l'exception de 4 pattes aussi blanches que des chaussettes. Akan ne portait pas l'uniforme traditionnel, mais une tenue d'éclaireur, c'est ainsi que l'avait baptisé Coco la couturière, entièrement cousue à partir de peaux de castor. Le secrétaire général de la paix restait figé dans la même attitude solennelle que les autres soldats, mais il était le seul à ne pas tourner son regard en direction de la statue de Marie-Lune. L'averse s'intensifiait, fouettait les visages de marbre des militaires, alors que les civils s'étaient réfugiés sous les bâches.
« À mon commandement !» ordonna Jeanne d'Arc.
« Attends-moi, mon géant !»
Sabi venait d'apparaître dans la cour d'honneur, pieds nus, une cape plastifiée enfilée à la hâte par-dessus sa nuisette en dentelle.
Tu n'allais pas partir jouer les trappeurs sans me dire au revoir!
Elle courut vers lui, dérapa volontairement ou pas, et Akan n'eut pas d'autre choix que de la rattraper entre ses bras. Tant pis pour le protocole.
Tu me promets d'être prudent? de ne pas te laisser ensorceler par les belles sauvageonnes des tribus nouvelles. De me rapporter plein de trésors, des plumes de perroquets ou des perles d'arc-en-ciel pour m'en faire un collier. »
Sabi adorait l'odeur de cuir mouillé qui collait à la peau de son héros. « Promis, » assura Akane. « Et toi, tu me jures d'être sage, de ne plus accepter aucun nouvel entretien pour cette feuille de chou, de ne pas boire des litres de speed verte, de ne pas faire la fête toutes les nuits avec les Lolly Girls, de ne pas laisser ton petit historien te tourner la tête, de ne pas... » Sabi l'embrassa.
« Tais-toi, tu vas me manquer. »
Elle lui glissa dans la main un petit cœur d'argile acheté en secret sur le marché.
« Je te le confie. Prends soin de lui. »
Elle recula aussitôt et tourna la tête pour qu'Akane ne la voie pas pleurer sous la capuche de sa cape de plastique.
« À mon commandement !» répéta Jeanne d'Arc. « Tous les hommes à cheval !»
Les quatre soldats de coin levèrent les étendards du grand cerf.
Grand bois, avec moi !»
Les 20 cavaliers firent claquer leurs sabots sur les pavés et, selon un défilé parfaitement orchestré, se postèrent devant Jeanne d'Arc. Un cavalier trapu monté sur un pur sang blanc sortit du rang. Bill. Il avait revêtu sa traditionnelle cape de tigre et glissé une fleur d'immortel dans sa boutonnière. Il tira sur ses rênes pour se placer au centre de la cour d'honneur.
« Ado du Nouveau Monde !»
cria-t-il d'une voix forte.
« Cap plein sud !»
Une petite voix, noyée dans l'immense place, lui répondit.
« Une seconde, Bill !»
Cette fois, c'est Chrysanthe qui avait surgi. Elle portait dans sa main une petite couronne d'osier tressé. Elle courut jusqu'au ministre des Voyages et sautilla devant son cheval jusqu'à ce qu'il se penche assez pour attraper la couronne.
« Pour toi, King Bill !»
« Je ne suis pas roi, Chrysanthe !» répondit Bill, gêné, sachant que tout le monde les regardait.
« Oh, si, tu le seras. Souviens-toi, Otipi, tu ne rêvais que de ça. »
Bill tortillait la fragile couronne entre ses grosses mains.
« On doit y aller, Chris. On a déjà trop traîné. »
La pluie tombait sur la robe à fleurs de la jeune fille. Les cheveux blonds de Lali dépassaient des bretelles trop peu serrées, offrant l'image monstrueuse d'une volumineuse poitrine poilue. D'autres sabots claquèrent sur les pavés de la cour. Jeanne d'Arc et Akane, eux aussi perchés sur leur monture, venaient de rejoindre Bill. Jeanne d'Arc, dans son uniforme rutilant, se rangea à droite de Bill. Akane, dans sa grande tunique de trappeur, sur sa gauche. Les trois cavaliers se tenaient face à Chrysanthe. Trois hommes, trois héros, en quête de gloire. L'adolescente paraissait minuscule devant eux.
« Waouh !»
s'enthousiasma Chrysanthe.
« Comme vous êtes beau ! J'ai parlé de vous avec Lali, de vous trois, et on est tombés d'accord toutes les deux. »«
Dépêche-toi, Chrysanthe !» dit Bill, mi-agacé, mi-amusé.
Depuis leur enfance au tipi, il avait toujours été le seul à écouter Chrysanthe. Et surtout le seul à croire en ses prophéties. La jeune fille posa sa main sur sa poitrine et caressa les cheveux blonds qui en dépassaient.
« Voilà, »
finit-elle par affirmer,
« vous deviendrez rois, tous les trois, mais l'un en mourra, un autre s'en ira, et seul le troisième règnera. »